Mon histoire des femmes, par Michel Perrault. 25e et dernier épisode.
Durant ces 5 semaines, nous avons suivi, au travers de l'histoire des femmes, plusieurs chemins. Nous avons tracé quelques diagonales. Source et représentation. Le corps. L'âme. Religion, éducation, création. Le travail et la profession. Femmes dans la cité. Ces thèmes nous ont retenus, avec une interrogation constante. Quels sont, quels ont été, le long de ces frontières, les changements des rapports entre les sexes? Comment a évolué la différence des sexes? Comment se sont modifiés les partages entre les hommes et les femmes, leurs identités et leur hiérarchie? Ce qui me frappe surtout, au terme de ce parcours, c'est l'immensité de ce que je n'ai pas dit ou pas abordé, au risque d'accentuer encore l'ombre que justement j'aurais voulu dissiper en éclairant seulement certains points. S'agissant de la santé des femmes, j'aurais pu parler de la folie, travaux d'Yannick Ripa par exemple, cette folie qu'on leur a si longtemps octroyée comme le symétrique de la violence pour les hommes. Les femmes sont folles, dit-on, et les hommes sont criminels. Ce qui est une façon de river les femmes à leur corps et à leur irresponsabilité supposée. En matière délinquance et criminalité, il existe en effet depuis longtemps, mais cela s'est accentué dans les dernières années, une curieuse dissymétrie. Les prisons sont peuplées d'hommes à 96%. Les 4% de femmes incarcérées étant d'ailleurs les plus abandonnées, les plus marginalisées de toutes, comme si elles contrevenaient particulièrement à la norme du féminin. Jadis, Saint-Lazare fut un haut lieu de solidarité féminine. Ce n'est plus le cas de Rennes, la seule centrale de femmes en France aujourd'hui. Cette dissymétrie carcérale est-elle l'expression d'une exaspération de la violence des hommes ou d'une victimisation accrue des femmes que dénoncent certains avocats? Un peu les deux sans doute, mais cela pose problème. Symptômes, mais de quoi? Je n'ai pas parlé des femmes dans l'esclavage. Quelle a été la part et la place des femmes dans les traites négrières qui ont bouleversé la vie de l'Afrique et de l'Amérique? Que faisaient-elles? Comment étaient utilisées leurs qualités domestiques et leurs fonctions maternelles? Furent-elles des éléments d'adaptation, de résistance, de mémoire? On pense au livre de Toni Morrison, Beloved, par exemple. Je n'ai pas parlé des femmes dans la Shoah, dans la déportation et l'extermination des Juifs. Qu'importait la différence des sexes? Le fait que la judéité se transmet par les femmes avait-il une conséquence? Je pense ici aux travaux de Jacques Fijalkoff et de son équipe, Juives et non-juives, Souffrance et résistance, paru chez Chaleil en 2004. Dans certains conflits ethniques, qu'il n'est évidemment pas question de comparer avec la Shoah, comme les guerres en ex-Yougoslavie, le corps des femmes fut un enjeu majeur. Et à Srebrenica, on a pu faire état, je pense à Véronique Naumgram qui a étudié cela, de viols systématiques comme armes de guerre. Dans tous ces cas, il s'agit surtout des femmes victimes, aux prises avec la violence, la guerre, à des formes de domination masculine dont les hommes sont aussi victimes. Car il faut bien souligner ça, les hommes sont victimes de ce qu'on appelle la domination masculine. Pourtant, cette domination masculine est loin d'épuiser les relations entre les hommes et les femmes, heureusement. Pas plus que le statut de victime ne résume celui des femmes dans l'histoire. Les femmes savent résister, exister, construire leur pouvoir. L'histoire n'est pas plus celle du malheur des femmes que celle de leur bonheur. Les femmes sont actrices de l'histoire. j'espère l'avoir suggéré et montré, refusant toute perspective manichéenne des sexes en blanc et en noir. Les femmes n'ont pas toujours raison. Écrire leur histoire n'est pas un moyen de réparation, mais de compréhension et d'intelligibilité globale. Si je regarde le chemin parcouru dans ces émissions, d'autres limites me frappent dans le temps et l'espace. J'ai parlé surtout d'histoire moderne et plus encore contemporaine, qui m'est plus familière et qui dispose de sources et de travaux beaucoup plus abondants. Mais l'apport de l'histoire antique et médiévale est considérable. Dans le domaine des représentations, je pense aux travaux de Nicole Leroux, des religions, mais aussi du droit, des relations familiales, dans la vie quotidienne et même dans l'action politique. Tout récemment, Anne Brenon décrit les femmes cathares dans l'Occitanie de la fin du Moyen-Âge. Cet attrait pour les contre-conduites que j'ai signalées à propos des béguines. Même la préhistoire est aujourd'hui revisitée par la différence des sexes. Claudine Cohen, dans « La femme des origines », image de la femme dans la préhistoire occidentale, Belin 2003, montre comment le regard sur la femme des origines a changé, surtout sous l'influence de la recherche américaine. Au départ androcentrique, la préhistoire interprétait les traces des femmes comme dans un sens religieux, érotique ou mythique, la grande déesse par exemple. Elle tend aujourd'hui, cette préhistoire, à restituer à cette femme des origines sa place dans la diversité des rôles sociaux et sexuels et dans la vie quotidienne. Cela permettra peut-être de sortir d'une vision stéréotypée des rôles des sexes sans pour autant retomber dans les thèses d'un matriarcat originel qui avait été très célébré au cours du 19e siècle, qui aurait eu les femmes au début de l'humanité, mais ça semble tout à fait faux. On n'en a pas vraiment de traces de cela. Alors ceci nous invite à élargir les frontières du temps, mais aussi les frontières de l'espace, à sortir du monde occidental. Et ceci, d'autant plus que l'histoire des femmes et du genre s'est beaucoup développée en Extrême-Orient, en particulier en Inde et au Japon, en Amérique latine, particulièrement au Brésil. Il y a des centres d'études très vivants à Campinas, Rio, São Paulo, etc. Et même en Afrique, où il n'est pourtant pas facile de sortir des représentations ethnologiques un peu figées. En Afrique, on saisit par exemple le rôle des femmes dans le développement du commerce comme un élément dynamique de l'essor urbain qu'a décrit par exemple Catherine Kokri-Vidrovitch. L'histoire des femmes, en devenant mondiale, pose la question redoutable de la diversité des expériences et de la diversité des cultures, et par conséquent le problème des valeurs universelles, notamment en ce qui concerne l'islam, dont on sait le rôle dans ce qu'on appelle, et je ne reprends pas cette expression à mon compte, le choc des civilisations. Or, la différence des sexes y est centrale et plus complexe qu'on ne le croit. Voici par exemple un livre de Habiba Fati, préfacé par Olivier Roy. Il s'appelle « Femmes d'autorité dans l'Asie centrale contemporaine, quête des ancêtres et recomposition identitaire dans l'islam post-soviétique » et c'est paru chez Maisonneuve et La Rose en 2004. Ce livre repose sur une enquête de terrain menée entre 1995 et 1999 dans les 5 pays qui constituent l'Asie centrale post-soviétique, Ouzbékistan, Turkménistan, etc. Et dans ces 5 pays, on voit des femmes qui accèdent aux fonctions d'autorité. On les appelle, ces femmes, les Otin, O-T-I-N. Et on définit ça, un homme de Dieu dans le monde des femmes. ces femmes ont préservé une culture religieuse traditionnelle et c'est principalement à elles que l'on doit le fait que ces pays soient restés musulmans. Mais aujourd'hui, elles se heurtent au néo-wahhabisme, c'est-à-dire à un islam intégriste, beaucoup plus fondamentaliste et machiste, auquel elles s'opposent. On voit la complexité des choses. Ainsi, dans cette Asie centrale musulmane, les femmes se trouvent au cœur de la question du pouvoir d'État et de l'identité nationale. L'histoire des femmes est en l'occurrence centrale, et Olivier Roy l'incite à se penser comme telle l'histoire des femmes et à sortir de sa marginalité pour justement se penser comme une donnée fondamentale de la compréhension du politique. Et ce qu'il dit est valable pour l'ensemble de l'histoire, travaillée toujours par la tentation de la clôture. Or, il est vrai que la plongée dans les pratiques, les lieux, les vies de femmes est attirante. Il y a un plaisir de la chambre, du jardin fermé, de l'entre-soi, du repli sur un monde intérieur plus doux. Mais cette plongée ne doit pas empêcher de démêler l'écheveau où s'imbriquent les rapports de sexe. Doublement séduisante, par conséquent, la démarche d'Habiba Fati à valeur générale et portée particulière. Elle relativise la différence culturelle et religieuse et invite à l'analyser dans son fonctionnement interne. On pourrait appliquer cette démarche au voile. Venu des rives de la Méditerranée, instituée d'abord par le christianisme comme signe de la dépendance des femmes, le voile peut revêtir un autre sens dans l'usage que les femmes en font au Maghreb et même en France, une protection, un viatique, une parure, un moyen plus sûr de circuler dans un quartier ou une ville hostile en échappant au regard d'autrui. C'est ce que nous dit, par exemple, Assia Djebbar, la grande romancière algérienne, franco-algérienne, elle écrit tous ses romans en français, dans ses romans pénétrés de cette culture féminine algérienne dont elle vient. Je pense par exemple à « Femmes d'Alger dans leur appartement », à « La femme sans sépulture » et beaucoup d'autres titres. Elle dit ça, Assia Djebbar, elle montre le voile comme quelque chose que les femmes se mettent pour sortir et pour se protéger du regard hostile ou concupiscent. Mais bien entendu, ce n'est pas un idéal. Il vaudrait mieux que les femmes puissent circuler librement et sans voile. Mais on voit à quel point l'universel est en devenir, inachevé, peut-être inachevable, terme inaccessible d'une histoire sans fin. Aujourd'hui, où en est l'histoire des femmes ? En tant que récit, elle existe à des degrés divers, un peu partout dans le monde, occidental surtout, mais ailleurs aussi. Elle a constitué une forme de prise de conscience identitaire, une tentative de mémoire, et surtout de relecture des événements et des évolutions à l'aune de la différence des sexes, c'est-à-dire du genre. Dans ces flancs de cette histoire, se développe une histoire des hommes et de la masculinité, car on ne naît pas femme, on le devient. On ne naît pas homme, on le devient. En France, l'histoire des femmes est un champ actif, doté de groupes de revues comme Clio, la revue aussi Travail, Genre et Société, où on trouve beaucoup de choses sur l'histoire. Cette histoire est cependant mieux reconnue dans le public que dans l'université elle-même. L'université pourrait mieux faire de ce point de vue-là. Espérons qu'une émission comme celle-ci l'y incitera, c'est ce que je pourrais espérer bien sûr. Mais les femmes dans l'histoire, ça c'est encore autre chose. Impossible bilan, qui oscille selon les jours et les événements entre l'optimisme et la conquête, on a gagné, et le scepticisme, du sentiment de l'illusion, à quoi bon et où en sommes-nous ? Dans le monde occidental, l'égalité des sexes, tardivement identifié est devenu, certes, un principe reconnu jusque dans la Constitution européenne. Les femmes ont accédé à bien des domaines du savoir et du pouvoir qui leur étaient interdits, y compris militaires et politiques. Elles ont conquis bien des libertés, et surtout la liberté de la contraception, qui est la clé de la révolution sexuelle. Donc, ne boudons pas notre plaisir. Laquelle d'entre nous, ici en France, voudrait revenir à la condition de nos aïeuls du 19e, 18e, 17e? Personne, je crois. D'ailleurs, ça, la question ne se pose pas. Toutefois, entre théorie et pratique, bien des écarts subsistent. Ainsi, dans l'accès aux responsabilités, aux professions, à l'égalité salariale, il y a toujours, par exemple, ce 12% moyen d'écart entre les salaires masculins et féminins. Quand on a éliminé toutes les autres possibilités de différence, il y a toujours 12% d'écart. Ce 12% d'écart étant lié simplement au fait d'être un homme ou une femme. Il y a des zones qui résistent. Le religieux, l'économique, le domestique qui se partage si peu, la création qui se dérobe. Souvent, les frontières se déplacent. Des terrains d'excellence masculine se reconstituent auxquels les femmes n'ont plus accès. Tant la hiérarchie des sexes est loin d'être dissoute. Les acquis sont fragiles, réversibles. Des retours en arrière sont toujours possibles. Les intégrismes politiques et religieux font de l'ordre des sexes et de la dépendance des femmes un de leurs leviers. Des effets pervers inattendus se produisent. Solitude, affrontement, voire violence, marquent des rapports de sexe souvent plus tendus. À l'échelle planétaire, la mondialisation, au moins dans un premier temps, fragilise les plus faibles, dont les femmes, exposées à la paupérisation, à la faim, aux guerres nationales et ethniques qui touchent surtout les civils, au sida, galopant surtout en Afrique, à la prostitution, dont les réseaux s'étendent, contredisant la vision triomphante d'une sexualité libérée. L'histoire des femmes est aussi tragique que celle des hommes. Ainsi, la révolution sexuelle, dont nous avons tenté de prendre la mesure, est inachevée, au vrai, interminable. Là, pas plus qu'ailleurs, il n'y a de fin de l'histoire. Impossible, donc, de clore ce récit. On peut dire « il était une fois », invoqué d'obscurs commencements, dire le début, mais pas la fin. Histoire à suivre donc, histoire à faire surtout. Merci de votre écoute. Au revoir.
Mon histoire des femmes par Michel Perrault. Réalisation Pierrette Perronneau.